Vous écoutez, on lit pour vous.
Combattre le cancer à coups de pédale. Un texte de Philippe Mercure, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse. Le 6 juin 2025, Laurent Proux a plongé la roue arrière de son vélo dans l'océan Pacifique, en Colombie-Britannique. 32 jours plus tard, l'homme de 64 ans trempait la roue avant de sa monture dans l'Atlantique, à Terre-Neuve, complétant une incroyable traversée du Canada. Un exploit personnel. Une revanche contre le cancer. Une activité de collecte de fonds, une campagne de sensibilisation, un projet scientifique. Cette aventure, c'est tout cela à la fois. J'ai joint M. Proux au téléphone à Terre-Neuve le lendemain de son arrivée. « C'est tout un feeling », m'a-t-il dit. Sa voix a flanché au mot « feeling ».« C'est l'émotion. Excusez-moi. Je ne contrôle plus ça, ben, lance-t-il. Je lui fais remarquer qu'il doit être fourbu après avoir pédalé plus de 200 km par jour sans interruption. « Non, non, absolument pas, » assure-t-il. « Les gens me disent de me reposer, mais je suis en forme. J'ai un petit doigt engourdi et un tendon d'Achille irrité, mais sinon, je n'ai mal nulle part. Je pourrais repartir demain pour un autre 200 km. » Des sportifs qui repoussent les limites, il y en a plusieurs. Si je vous parle de cette aventure, c'est qu'elle se distingue tant par ses objectifs que par son volet scientifique. Laurent Proux a été atteint d'un cancer de la prostate à 48 ans. Il est aujourd'hui PDG de Procure, un organisme de bienfaisance dans la lutte contre ce cancer. Sa traversée du Canada s'inscrit dans ce cadre. Chaque jour, de vélo sur la route, il l'a dédié à un homme ayant été frappé par un cancer de la prostate. La liste compte Régis Labeaume, Alain Lemaire, Richard Martineau et Carl Blackburn. L'idée était de vendre chacune des journées. Une entreprise devait s'engager à verser 10 000 $ par année pendant 3 ans pour une des journées de mon défi, explique-t-il. Les journées ne se sont pas toutes vendues, mais Laurent Proux a néanmoins amassé 535 000 $. Cet argent sera versé pour la recherche sur le cancer de la prostate. Le deuxième volet, c'est la sensibilisation. En associant chaque journée à un homme, j'expliquais par une publication Instagram quel défi il avait vécu avec le cancer de la prostate, explique-t-il. Il y a finalement l'aspect scientifique. La science bénéficiera de cette aventure par les fonds consacrés à la recherche. Déjà, un projet visant à étudier comment la condition physique influence le succès d'un traitement, comme la radiothérapie ou la chimiothérapie, est dans les cartons. Mais de la science, il s'en est aussi fait avant que Laurent Proux ne monte sur son vélo. Sa préparation a mobilisé un escadron de professionnels de l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Préparation physique, préparation mentale, nutrition. Ces spécialistes ont élaboré un plan d'un an destiné à amener Laurent Proux à un niveau suffisant pour qu'il réussisse son défi. Rénal Bergeron, professeur à l'École de kinésiologie de l'Université de Montréal, a fait figure de chef d'orchestre du projet. Pour nous, l'intérêt est multifactoriel, explique-t-il. C'était pas mal intéressant d'en profiter pour exposer nos étudiants à ce type de clientèle. Pas un champion olympique, mais quand même un athlète de haut niveau. Il ne faut pas se cacher qu'il y a aussi un aspect de rayonnement pour nous. On veut faire connaître l'école de kinésiologie. Le fait que l'argent récolté soit attribué à des projets de recherche nous a aussi interpellés. Laurent Proulx ne partait pas de zéro, loin de là. Ce triathlonien a complété un Ironman un an à peine après son opération pour son cancer. Mais pédaler plus de 200 km par jour pendant 32 jours dans les reliefs accidentés du Canada représentait quand même un défi considérable. Reynald Bergeron témoigne. Considérant son âge et son passé de survivant du cancer de la prostate, c'est quand même assez phénoménal ce qu'il vient d'accomplir. Les spécialistes ont élaboré un programme d'entraînement qui a fait augmenter tant la capacité pulmonaire et la masse musculaire que l'endurance de Laurent Proulx. La préparation comprenait un aspect étonnant à mes yeux. Apprendre au système digestif du cycliste à fonctionner pendant l'exercice. Dans la nature, même quand tu regardes les animaux, ils ne font pas d'activité physique pendant qu'ils mangent, fait observer le chercheur. Laurent Proulx, lui, devait combiner les deux pour s'assurer d'ingérer assez de calories pendant son épreuve. Il a fallu entraîner son système digestif à ça, explique le professeur Bergeron. Laurent Proulx se dit extrêmement reconnaissant d'avoir pu compter sur l'appui des chercheurs et étudiants de l'Université de Montréal, mais aussi sur celui de ses proches. Ceux-ci l'ont suivi en véhicule récréatif et s'occupaient de toute la logistique, lui permettant de se concentrer sur une seule chose, pédaler. Le cycliste raconte que sa première journée, qu'il a menée de Vancouver à la Sunshine Valley, en Colombie-Britannique, s'est si bien déroulée qu'il a cru un moment que le défi serait facile. « Le lendemain, j'ai eu un reality check », dit-il. Il y avait de la chaleur, du vent de face, de la montée. Ce n'est pourtant pas la traversée des Rocheuses qu'il a trouvée la plus éprouvante, mais celle des prairies. Ça a été dur. Du vent de face pendant 4 jours, avec des bourrasques, raconte-t-il. Le vent rentrait dans mon vélo et le faisait bouger. Ça a été la partie la plus difficile en termes d'effort. Sinon, il y a eu une chute, quelques crevaisons, dont une qui a percé jusqu'à la jante de sa roue, la rencontre d'un ours sur la route, le véhicule récréatif d'accompagnement qui s'est retrouvé par inadvertance sur une piste cyclable. Je suis vraiment chanceux, dit toutefois Laurent Proulx. J'ai été tellement bien préparé, tellement bien soutenu, j'ai beaucoup de monde à remercier. C'était « Combattre le cancer à coups de pédale ». Un texte de Philippe Mercure, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse.
Sur TikTok, le retour en force du culte de la maigreur fait des ravages. Un texte de Chloé Rabs de l'agence France Presse paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. Des contenus violents, culpabilisants, mais surtout dangereux. Sur TikTok, des injonctions extrêmes de jeunes femmes à contrôler et à réduire drastiquement son alimentation pullulent sous le mot-clic hashtag SkinnyTalk. et peuvent contribuer à aggraver les troubles des comportements alimentaires, TCA, alertent les professionnels. « Tu n'es pas moche, tu es juste grosse. Ton estomac ne gargouille pas, il t'applaudit. Plaisir éphémère, regret éternel. » Depuis plusieurs mois, les discours de jeunes filles faisant la promotion de l'amaigreur extrême gagnent en visibilité sur TikTok. Une tendance qui n'est pas sans rappeler le mouvement dévastateur Pro-Ana pour Pro-Anorexie des années 2010 qui sévissait sur Skyblog. C'est une nouvelle variante, décrit Pierre Dechelot, médecin et professeur de nutrition au CHU de Rouen, dans l'ouest de la France. Ce sont des personnes qui souffrent de TCA, qui deviennent des ambassadrices de la dénutrition et qui font du prosélytisme malsain vis-à-vis des attitudes anorexiques. En effet, au-delà de partager des photos de leur corps dénutri, de leur routine sportive excessive et de leur repas plus que hypocalorique, ces jeunes filles cherchent à culpabiliser celles qui ne parviennent pas à se restreindre à ce qu'elles présentent comme un mode de vie sain. Contenu toujours plus trash. Elles tiennent des propos chocs, brutaux, assez dégradants et jouent beaucoup sur la honte que peuvent ressentir les personnes qui vont être exposées à ces contenus, détaille Hugo Saoudi, psychiatre spécialisé dans les TCA. En France, près d'un million de personnes souffrent d'anorexie mentale, de boulimie nerveuse ou d'hyperphagie boulimique, particulièrement des femmes âgées de 17 à 25 ans. Pour lutter contre le risque d'influencer d'autres adolescentes, Charline Bouygues, infirmière spécialisée dans les TCA, a lancé une pétition pour alerter les pouvoirs publics. Ses patientes, âgées de 13 à 18 ans, viennent régulièrement la voir en pleurs, lui confiant passer des heures à regarder ce type de vidéos. Les réseaux sociaux mettent de plus en plus en difficulté mes patientes et mon travail. Il n'est plus possible de ne rien faire, explique-t-elle. Entendant son alerte, la ministre française en charge du numérique, Clara Chapaz, a saisi le régulateur des médias et la Commission européenne, assurant qu'elle ne laisserait pas les plateformes fuir leurs responsabilités. Outre le manque de modération, le système algorithmique de TikTok est régulièrement accusé d'enfermer les jeunes dans des bulles de filtres. Il y a un phénomène de boule de neige qui fait que la personne qui tombe, volontairement ou non, sur des publications pro-anorexie va se retrouver embarquée dans un fil de contenu toujours plus trash et qui vont entretenir une tendance obsessionnelle de l'image corporelle, dénonce le docteur Dechelot. Risque d'arrêt cardiaque. Même si les causes des troubles alimentaires sont multifactorielles, ces contenus peuvent fragiliser des personnes déjà vulnérables. Ces vidéos peuvent créer des difficultés chez des personnes qui ont déjà des préoccupations autour de leur alimentation et de leur corps, mais aussi aggraver les troubles de celles qui sont déjà malades, prévient Hugo Saoudi. Le risque est aussi très important pour celles en voie de guérison. C'est très dangereux. On ne sort pas des troubles alimentaires en un claquement de doigts. C'est des années de travail qui peuvent vite être détruites, avertit la diététicienne nutritionniste Anne-Laure Larat. Très dévastateur, les TCA peuvent engendrer de graves problèmes, notamment cardiaques et de fertilité, et constituent la deuxième cause de mortalité prématurée chez les 15-24 ans, selon l'assurance maladie. La dénutrition est banalisée, voire valorisée. Des vidéos de filles qui se font vomir cumulent des millions de vues alors qu'elles risquent un arrêt cardiaque, rappelle Charline Bouygues, alias arrobas au cœur d'Estka, sur Instagram. Depuis la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de prise en charge pour des TCA continuent d'exploser et l'offre de soins se révèle très insuffisante, souligne le docteur Dechelot, qui regrette des semaines, voire des mois d'attente. Pour lui, il est ainsi plus que temps de mettre des limites à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et même si TikTok a mis en place un discret message de prévention accessible seulement en recherchant le hashtag SkyNeTalk, Charline Bouygues conseille souvent à ses patientes de désinstaller l'application. L'une d'elles m'a dit « Charline, je t'ai écoutée et depuis, je revis ». C'était sur TikTok le retour en force du culte de la maigreur fait des ravages. Un texte de Chloé Rabs de l'agence France Presse paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.
Briser l'isolement, un besoin grandissant. Un texte d'Hugo Beaucamp paru le 13 juillet 2025 dans La Liberté. Lancé en janvier 2025, un groupe de soutien en santé mentale destiné aux hommes connaît un succès grandissant à Sainte-Anne. Un succès qui témoigne d'un besoin important, notamment en région rurale. Sous l'impulsion de Jeremy Wenz et Ryan Pacheska, un groupe de soutien en santé mentale pour hommes voyait le jour à Sainte-Anne au mois de janvier 2025. Après un démarrage qui avait dépassé les attentes des deux fondateurs, le groupe n'a cessé de grandir depuis. À tel point que le besoin d'espace a fini par se faire ressentir, obligeant ainsi le groupe à relocaliser ses activités, toujours à Sainte-Anne, au Club Jovial sur la rue principale. Tous les troisièmes mardis de chaque mois, en début de soirée, ce sont entre 20 et 30 hommes qui se réunissent pour échanger, partager et se soutenir les uns les autres le temps d'une heure. Même le soir d'un match des séries éliminatoires, une vingtaine de gars étaient présents, se souvient Jeremy Wenz. Ça démontre à quel point il y a un intérêt pour ce que nous faisons. Alors, bien entendu, l'évolution de cette initiative et le succès qu'elle rencontre sont aussi révélateurs d'un besoin grandissant et il est difficile de s'en réjouir. À chaque rencontre, nous faisons venir des intervenants pour aborder différents sujets. Il peut s'agir de techniques de respiration, de la gestion de la colère, plus largement de façon de composer avec toutes sortes d'émotions, ajoute-t-il. Rompre l'isolement. Toutefois, l'existence de ce groupe de soutien n'en est pas moins une bonne nouvelle, selon Manon Talbot, psychologue associée. Dans le cadre de son travail, Manon Talbot travaille auprès de la clientèle francophone dans une clinique au rural. Elle souligne les bénéfices que ce genre d'initiative apporte. C'est très pertinent, notamment dans les zones rurales où l'isolement social peut être plus important. Et justement, le but d'un groupe de soutien, c'est de réduire cet isolement social. Ça permet aussi de se normaliser, s'identifier et apprendre des autres. Pour faire face à ce défi d'isolement social, qui est selon la professionnelle une problématique propre au 21e siècle, s'entourer est déjà un premier pas vers le mieux. C'est un excellent moyen d'échanger sur une base plus personnelle. Ça permet de s'apercevoir que l'on n'est pas seul à faire face à certaines difficultés. On se sent accompagné et soutenu, et ça peut faire du bien. Et c'est précisément pour ça que le groupe de soutien en santé mentale voit le jour au départ. Jeremy Wenz raconte d'ailleurs que l'entraide et la fraternité ont permis de sauver les vies d'un jeune homme aux idées noires. L'un des membres du groupe lui a tenu compagnie toute une nuit. Ça a eu un impact. Il a confié que ça lui avait probablement sauvé la vie. Nouvelle formule. La relocalisation n'est pas le seul changement qui s'est opéré au sein du groupe. Son fonctionnement lui-même a évolué au fil des rencontres. Jeremy Wenz nous en dit plus. À chaque rencontre, nous faisons venir des intervenants pour aborder différents sujets. Une nouveauté qu'encourage Manon Talbot. Ça peut permettre le développement de compétences au niveau relationnel et même personnel, dit-elle. Ça peut permettre l'acquisition de connaissances et une meilleure compréhension de l'anxiété ou du stress. C'est un bon lieu d'échange et d'apprentissage. Ainsi, les rencontres mensuelles se divisent dorénavant en deux parties. Une partie consacrée aux intervenants et la dernière demi-heure aux échanges. La psychologue associée soulève cependant un point important. C'est le défi que pose la taille actuelle des groupes. Elle indique que la taille idéale pour des groupes de partage est généralement comprise entre 7 et 10 personnes. Au-delà, cela peut être un peu plus intimidant et il est plus difficile pour les participants de créer du lien. Cependant, Jeremy Wenz se veut rassurant et souligne que les participants sont séparés en petits groupes, ce qui explique d'ailleurs en partie le besoin pour davantage d'espace. Pour ce qui est de la suite, un site Internet est actuellement en préparation. Des ressources devraient y être rendues accessibles ainsi qu'une ligne de contact. Si vous avez besoin d'aide, la ligne 988 est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français et en anglais. C'était « Briser l'isolement, un besoin grandissant », un texte d'Hugo Beaucamp paru le 13 juillet 2025 dans La Liberté.
Le bonheur du nid vide. Un texte de Maude Goyer, paru le 3 août 2025 dans la presse. Ce ne sont pas tous les parents qui s'écroulent et pleurent le départ de la maison de leurs enfants devenus grands. Certains d'entre eux applaudissent et célèbrent ce nouveau chapitre. Le nid vide n'est alors pas triste. Il est joyeux et parfois même libérateur. Je n'ai pas vécu de deuil quand mes filles ont quitté la maison. J'ai eu le cœur gros quelques jours, mais j'étais heureuse de retrouver quelque chose d'important et mis un peu de côté à travers la maternité. Moi. Isabelle Fortin brise un tabou en s'exprimant librement sur sa joie de voir ses deux filles de 17 et 19 ans prendre leur envol. Non, elle n'est pas une mère ingrate ni indigne. Au contraire. « J'ai tout donné à mes filles et à ma vie de famille, confie-t-elle. J'ai abandonné ma carrière. Je me suis investi à 100 000 à l'heure et j'ai tout aimé. » »« Mais là, je suis rendue ailleurs, » affirme Isabelle Fortin. « J'ai repris le contrôle de ma vie, de mes horaires. J'ai plus de liberté et j'aime ça. » La cadette de Mme Fortin fréquente un collège où elle est pensionnaire et l'aînée poursuit des études universitaires à Toronto. Dans les deux cas, la maman se sent toujours très proche. Le lien est fort, et ce n'est pas la distance qui change cela, indique-t-elle. On se fait régulièrement des FaceTime, mais on ne se parle pas tous les jours et c'est bien correct. Charge mentale et financière. Autrice du livre « Après les enfants » qui traite du syndrome du nid vide, Karine Glorieux souligne qu'un sentiment de libération, presque euphorique, survient chez certains parents, et c'est normal. Pour plusieurs, c'est une période heureuse qui commence, dit celle qui a trois enfants de 16, 20 et 22 ans. Un tiers des parents ressentirait un grand vide, une tristesse, une sorte de déprime lorsque les enfants quittent le nid. Cela dit, les études démontrent que les gens les plus heureux ont entre 50 et 70 ans. Les facteurs de ce bonheur? Une baisse de stress et de pression, une diminution de la charge mentale et financière et un profond sentiment de satisfaction. Il y a une sorte de sérénité qui vient avec une impression de devoir accompli, ajoute Mme Glorieux. Des jugements. Dire tout haut qu'on embrasse le départ de ses enfants, ça demeure délicat. Les attentes sociales y sont pour quelque chose, avance l'autrice Karine Glorieux. On attend encore des mères que leurs enfants soient tout pour elles. Déclarer être heureuse que les enfants quittent le nid, ça vient presque systématiquement avec une sensation d'être ingrate. C'est mal vu, jugé. Je remarque cependant que de plus en plus de parents acceptent d'en parler. Le tabou d'éprouver de la joie en voyant le nid se vider vient aussi de notre ère de super-productivité et de super-performance, croit la psychologue Nadia Gagné. Aujourd'hui, il est de bon augure de dire qu'on est très occupé, qu'on est débordé, note-t-elle. Dire qu'on est plutôt tranquille, relax, ce n'est pas valorisé. Il y a une question d'image. Suzy, elle, n'ose pas dire tout haut ce qu'elle pense tout bas. Elle a accepté de parler de sa situation familiale sous le couvert de l'anonymat, de peur d'être reconnue par sa famille et ses proches. À 49 ans, elle le dit sans embâche. Elle a hâte que ses enfants partent vivre leur vie. « J'ai hâte que mon mari et moi, on ait juste nous deux à s'occuper, à gâter », dit la mère de deux jeunes adultes début vingtaine. La cohabitation à quatre adultes, c'est difficile. On s'entend que j'aime mes enfants, mais parfois je me demande, on profite de la vie quand, finalement? Se préparer. Si Suzy se prépare déjà à cette transition, qu'elle attend avec impatience, plusieurs parents de jeunes adultes tombent de haut parce qu'ils ne sont pas prêts. Il existe quelques pistes pour se préparer en amont, souligne Nadia Gagné. Il faut accepter que la relation parent-enfant se transforme, explique-t-elle. Plus l'enfant grandit, plus le rôle change, on devient des amis. Quand ils sont bébés, on contrôle tout, mais lorsqu'ils quittent la maison, c'est le summum de la perte de contrôle. Mais au fond, c'est ça le but. Voir son enfant évoluer, s'épanouir, être indépendant et autonome. Pour Karine Glorieux, la façon d'approcher cette étape est cruciale. Ce n'est pas une rupture, il faut se défaire de cette idée. Le lien se poursuit. Notre vie de parents continue de prendre de l'expansion car on va vivre de nouvelles choses à travers eux. Il faut être fier. Retrouver son couple, récupérer du temps pour réinvestir différentes sphères de sa vie, explorer de nouveaux passe-temps, renouer avec la solitude, avoir du répit. Ce sont toutes des facettes heureuses du nid vide. Isabelle Fortin suit des cours de photographie et s'est mise au Pilates. Elle sort régulièrement marcher et prend plaisir à organiser de petites escapades avec son conjoint. À 52 ans, je retrouve la Isa d'avant les enfants et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. C'était « Le bonheur du nid vide », un texte de Maude Goyer, paru le 3 août 2025 dans La Presse.